Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Radio Foot. Le mot du jour, bravo, bravo Eugénie, bravo Wendy, bravo Sarah, bravo les Lyonnaises.
Championne d'Europe, championne d'Europe, championne, championne, championne d'Europe.
Mais oui, elles peuvent se lâcher, elles sont intouchables les joueuses de l'OL. Elles ont soulevé hier la 7e Ligue des Champions de l'histoire de leur club, la 5e de rang. C'est exceptionnel, c'est historique, c'est à la une de notre émission ce lundi. C'est une belle manière de débuter la semaine. Beau casting également dans notre studio, casting 5 étoiles, là aussi. Bonjour Habib Bey.
Salut Hugo, salut à tous.
Et bonjour Salim Bongali.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Et bonjour Nabil Djellit.
Bonjour, bonjour à tous.
Au féminin comme au masculin, Lyon à l'honneur dans notre émission. Les hommes de Rudy Garcia, eux, ont réussi leur retour en Ligue 1 ce vendredi. Large succès 4-1 contre Dijon. Un autre Olympique a goûté à la victoire à l'occasion de sa reprise. L'Olympique de Marseille, succès 3-2 à Brest. Le point commun entre l'OL et l'OM, les deux clubs peuvent remercier leurs revenants. De Paille d'un côté, Thauvin de l'autre. Enfin, la saison a repris en Angleterre. Arsenal enchaîne la Cup il y a quelques semaines. Le Community Shield ce week-end. Grâce à la panthère Aubameyang, les Gunners ont pris le meilleur sur le grand Liverpool de Salah et de Mané tout de même. Alors faut-il y voir un signe, un bon signe ou tout du moins une lueur d'espoir pour les canonniers? Réponse tout à l'heure. Radio Foot, émission préparée avec David Finzel, réalisée par Laurent Salerno. Musique maestro.
Ligue des championnes d'affilée, la 7e au total pour le club, avec cette victoire 3-1 pour les Lyonnaises, championnes d'Europe.
On nous dit souvent, vous en avez pas marre de gagner? Non, on n'a pas marre, regardez notre joie encore aujourd'hui.
Je suis jamais rassasiée.
Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais féminine est au même niveau que maintenant que le Real de Madrid homme des années 50-60.
L'euphorie de la victoire. Ça fait parler Jean-Luc Vasseur, qui n'avait pas forcément envie d'avoir le triomphe modeste hier, et on peut le comprendre. Succès incontestable de ces Lyonnaises, 3-1 face à Wolfsburg en finale de la Ligue des Champions. Ces joueuses ont remporté la 7e Ligue des Championnes, on peut même l'appeler comme ça, de l'histoire de l'OL, la 5e de rang. Je le disais il y a quelques instants, 5 sacres européens consécutifs. Oui, comme le Real de Di Stefano chez les hommes il y a fort longtemps. La Maison Blanche s'était adjugée les 5 premières éditions de 1956 à 1960. Salim Bongali, la comparaison Lyon au féminin, Real au masculin, est-ce qu'elle est valable selon vous?
À l'époque donc, j'étais pas là pour le voir, mais
j'étais devant votre télé.
Oui, c'est ça.
Petit enfant en train de regarder Di Stefano.
On lit en tout cas les livres et voit certaines images. On comprend que c'était la meilleure équipe du monde, le Real Madrid à l'époque. Et la preuve en est avec les cinq compétitions remportées de suite. Aujourd'hui, on a Lyon. Lyon, c'est pas simplement la meilleure équipe d'Europe. On le rappelle, c'est la meilleure équipe du monde aujourd'hui, de très loin. Habib Bey est là et nous le confirmera. La difficulté, c'est pas de gagner, c'est de continuer de gagner, c'est de répéter les victoires. C'est ça qui est impressionnant, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut effectivement comparer les deux et se dire que Lyon, ou en tout cas l'OL féminin, est bel et bien le Real masculin de l'époque. Aussi.
Alors confirmé, mon cher Habib Bey.
Oui, parce que ce serait malhonnête en fait de ne pas vouloir les comparer. Pourquoi? Parce qu'on veut créer une égalité aujourd'hui justement entre le football féminin et le football masculin. Tout est fait pour développer ce sport et surtout pour développer la pratique du football pour les filles, et je trouve que c'est bien que ça se passe dans ce sens. On ne peut pas renier l'histoire non plus. Je pense que Jean-Michel Aulas a créé un modèle économique et surtout un modèle sportif pour les femmes dans son club. Il a pris beaucoup d'avance par rapport aux autres. Et l'histoire du Real Madrid aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on dit qu'ils ont gagné 13 ou 14 Ligue des Champions, 13 Ligue des Champions, on inclut celles qui ont été gagnées dans les années 60. Donc ça sera la même chose pour Lyon. C'est-à-dire que si, par exemple, dans 30 ans, on dit que Lyon a gagné 15 Ligue des Champions pour les femmes, bah, on inclura ce qui se fait aujourd'hui. Donc on peut pas en quelque sorte dire oh bah non, c'est pas comparable. Si, c'est comparable. Ce qu'elles sont en train de faire, c'est écrire la légende du football féminin au sein de l'Olympique Lyonnais, et je trouve que c'est bien de le souligner et d'appuyer là-dessus, parce que c'est pas facile, comme l'a dit Salim, de continuer à gagner.
Le succès, il est relativement incontestable sur le match d'hier, avec une grosse domination notamment en première période, Cascarino intenable, Le Sommer encore buteuse. Habib en parlait, Nabil, à l'époque quand le Real Madrid gagnait ses 5 Ligues des Champions de rang, L'adversité, elle n'était peut-être pas tout à fait au niveau. Le club avait de l'avance sur les autres, en tout cas sur la scène européenne. Lyon, pour l'instant, du côté féminin, a de l'avance sur les autres, ce qui n'atténue pas la teneur de ses succès.
Non, non, ça n'atténue pas, surtout qu'il y a une adversité qui s'est organisée au fur et à mesure. Il y a quand même des clubs qui sont puissants, qui ont des renforts aussi chaque saison, Barcelone par exemple, Wolfsburg qui est aussi un club qui est régulièrement invité en finale. Après moi, sur la comparaison, je suis pas trop d'accord. Moi, j'ai pas envie de comparer ce qui est pas comparable.
Dans quel sens c'est pas comparable?
C'est-à-dire que c'est je cherche pas par exemple à forcément comparer Monica Seles avec Pete Sampras. Voilà, je vis ça comme deux sports. Ok,
c'est le football.
C'est la même activité.
Cas, c'est le football.
Mais je pense qu'elles vont pas gagner. Il faut pas leur. On va pas leur donner de la légitimité en les comparant aux hommes. Elles gagnent leur propre légitimité. Elles écrivent leur propre histoire par leur performance, et par la qualité de leur spectacle
sport,
et parce qu'elles génèrent aussi comme économie. Voilà. Après, c'est juste ma position. Quand je regarde, même si c'est pas le même niveau d'intensité, pour moi, c'est pas exactement pareil. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est le même sport. C'est tout à fait logique. Si aujourd'hui tu compares Usain Bolt et la sprinteuse de 100 mètres, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même intensité. C'est tout à fait logique. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que malgré tout, lorsqu'on regarde le match, moi, je l'ai regardé, j'ai été très surpris. Il y a des matchs de Coupe du Monde où j'avais été hyper lucide du niveau. Hier, c'est quand même très homogène. On a quand même des joueuses. Moi, je pense à Sakina Karchaoui, par exemple, qui est arrivée de Montpellier à Lyon, qui fait un match fantastique hier. Le volume de jeu, justement, de Delphine Cascarino. Bon, bah, on se dit, alors oui, c'est pas comparable en termes de qualité, mais c'est tout à fait logique. Mais par contre, ce qu'il faut pas dénigrer, c'est ce que fait l'Olympique Lyonnais aujourd'hui dans le football féminin, la suprématie qu'elles ont, dans ce sport. Et c'est une très très bonne chose.
Non,
pour
mais si je veux dire par là, faut sortir du regard des hommes, entre guillemets, parce que c'est comme si elles devaient gagner à chaque fois leur légitimité.
Je voudrais qu'elles sortent du regard des hommes. Justement, c'est une vraie reconnaissance.
Mais je parle pas pour toi, mais c'est aussi un discours de circonstance qu'on entend chez certains. Et je pose naïvement la question, ceux qui aujourd'hui tressent des lauriers, est-ce qu'ils vont voir des matchs de football féminin? Est-ce qu'ils savent quel est le prochain match de Lyon sur le calendrier? C'est aussi
des questions qu'on peut avoir. Salim Ghali, vous pensez quoi du point de vue de Nabil qui pense que tout simplement il faut juger ce succès lyonnais, ces succès lyonnais en tant que tel, sans forcément chercher les légitimer à travers une comparaison avec le football masculin.
Je suis d'accord parce qu'il faut se poser un instant sur la perf. Donc, 5 ligues des champions de rang. On évacue le Real. Juste ça, dire ça, c'est colossal en fait. C'est vrai qu'il n'y a même pas besoin en soi de le comparer aux hommes, mais si certains veulent le faire, effectivement, on peut à ce moment-là dire, mais attendez, c'est une performance qui est tellement énorme. Rappelez-vous, chez les hommes, il n'y a qu'une seule équipe qui l'a faite dans l'histoire, c'est le Real. Donc, c'est vous dire à quel point cette performance est énorme.
C'est une
comme
jauge,
ça qu'on
un
peut
baromètre.
La comparer. Voilà, c'est un baromètre.
Ça permet de mesurer.
En elle-même, on peut juste dire, Lyon a gagné 5 ligues des champions de rang. C'est la meilleure équipe de la période et même, juste tout simplement, de l'histoire dans le foot féminin.
5 de rang et pourquoi pas 6, Wendy Renard?
On veut laisser une trace. Maintenant, il faut aller chercher la 6e pour battre ce record. On l'a égalé, mais on va encore chercher plus loin.
Voilà, la défenseuse des Bleus, c'est clair, c'est net, c'est précis. Elle en a déjà gagné 7. Hein, donc, si elle venait à en chercher une 6e de rang, ça en ferait 8 sur le plan personnel. C'est un discours de championne, tout simplement.
Oui, en fait, ce qui est assez fort, et Habib le légitimera sans doute mon propos, c'est que de gagner, c'est facile. Donc, encore une fois, ce qu'il faut, c'est perdurer et toujours garder cette envie de gagner. Et ce qui n'était pas évident pour Jean-Luc Vasseur lorsqu'il est arrivé sur ce banc, c'est qu'au final, tous ceux qui sont passés avant lui ont réussi à gagner. Rinaldo Pedros auparavant. Vasseur, il a été là et il a tenté de maximiser en tout cas l'énergie, j'ai envie de dire, de ces joueuses pour réussir à gagner et en tout cas les garder motivées. Il a réussi à le faire, avoir une nouvelle fois un quadruplé, c'est colossal pour ces joueuses.
Oui, Habib, c'est ça qu'il faut aussi retenir, cette constance au haut niveau, peu importe l'adversité qui d'ailleurs est réelle. Wolfsburg,
oui,
c'est
une bonne équipe, se resserre, on le voit bien.
Et l'écart se resserre.
Bien sûr, on le voit bien parce qu'hier, elles mènent 2-0 à la mi-temps. Elles ont un petit trou d'air quand même en seconde, où Wolfsburg revient bien. Elles remettent plus ou moins de la maîtrise et elles l'emportent. Et on a l'impression que le succès des Lyonnaises est facile, mais il n'a pas été simple parce qu'il y avait un moment où on aurait pu penser que Wolfsburg pouvait égaliser. Lorsqu'on voit la demi-finale face au Paris Saint-Germain, ça se joue à très peu de choses et un coup de pied arrêté de Wendy Renard. Or, la suprématie de Lyon face au PSG était beaucoup plus importante les années précédentes. On sent que ça se resserre petit à petit. C'est une bonne nouvelle. Et surtout, ne pas oublier qu'aujourd'hui, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, Barcelone sont en train de mettre des moyens pour construire des équipes féminines de grands talents.
Le Paris Saint-Germain également.
Et je pense que Lyon a pris beaucoup d'avance dans cet aspect-là. Ça veut dire que l'équipe, la fille aujourd'hui, qui est très très forte, si elle doit choisir entre Lyon et le Barça, elle va à Lyon. Mais vu que les autres arrivent maintenant à payer les mêmes salaires que Jean-Michel Aulas, c'est ça qui va être difficile pour Lyon dans les prochaines années. C'est très bien d'ailleurs.
Alors c'est vrai que comme nos auditeurs ont suivi attentivement cette rencontre en direct sur RFI hier, je n'ai pas résumé le match à proprement parler, je peux peut-être le faire. Hein. Le sommaire est Koumagaï buteuse en première période, 2-0 pour Lyon à la pause. Pop pour Volvo qui réduit l'écart. Et puis Sarah Björk Gunnarsdóttir,
pas
simple qui était avant à Wolfsburg,
dire. D'ailleurs. Tout à fait.
Exactement, ancienne de Wolfsburg qui clôt les débats.
Juste pour compléter le propos d'Habib, on parle des clubs espagnols, il y a encore plus les clubs anglais qui désormais mettent des moyens
Arsenal,
colossaux.
Chelsea,
avec City qui a mis des moyens colossaux. D'ailleurs, certaines actuelles joueuses de Lyon, sont anciennes joueuses de City. Chelsea qui met des moyens. Arsenal qui a déjà gagné la Ligue des Champions, faut-il le rappeler aussi. Le Bayern Munich qui depuis quelques années commence aussi à mettre des moyens colossaux après Francfort et en même temps que Wolfsburg aujourd'hui. Donc oui, l'écart se resserre. Et c'est ça qui est encore plus fort, c'est que malgré cet écart qui se réduit, Lyon continue de gagner. C'est ça qui est impressionnant. Et encore une fois, juste en se basant uniquement sur les femmes, puisqu'on ne veut pas le comparer forcément avec le Real, juste se dire, c'est colossal. Les autres continuent d'arriver, continuent de réussir des résultats. Le PSG est pas loin, et pourtant Lyon gagne encore. C'est ça qui est phénoménal.
Le PSG qui était en demi-finale contre Lyon cette saison. On rappelle également que ce dénouement de la Ligue des Champions, il a eu lieu dans le Pays Basque espagnol, la formule, un Final 8 comme chez les hommes. Vous parliez de la recette lyonnaise. Quelle est-elle, cette recette lyonnaise, Jean-Michel Aulas nous rapporte.
C'est même légendaire, on va dire, parce que il fallait chaque année se renouveler, innover, quelquefois changer les choses. Et puis cet esprit, véritablement, cette résilience à la victoire, cet instinct de se remettre en cause à chaque fois, a permis, même si l'équipe de Wolfsburg était très forte ce soir, de réussir un match tout à fait étonnant. Et on repart à Lyon avec une cinquième Champions League consécutive, ce qui est absolument incroyable, et la septième dans les bagages de cet Olympique lyonnais.
On l'a dit, on peut le redire, Nabil Djellit, le grand homme, peut-être le grand artisan de ce succès, au-delà des joueuses qui sont évidemment formidables, c'est Jean-Michel Aulas, visionnaire en Europe, visionnaire dans le monde.
Non, mais c'est à l'échelle du football français, là, pour le coup, au niveau féminin, c'est quand même un génie. C'est quelqu'un qui a cru bien avant les autres, et qui a cette sensibilité-là. C'est aussi des qualités humaines. Il a donné une légitimité, des moyens. Enfin, la clé, tu peux toujours parler. Si tu mets pas d'argent, ça sert à rien. Je veux dire, c'est ça. Donc lui a investi. Habib parlait tout à l'heure de salaires quand même qui sont donnés, qui sont plutôt importants, intéressants. Il a aussi attiré des stars. Dernier Ballon d'Or féminin, par exemple, féminin.
Ada
Egerberg. Après Rapinoe. Rapinoe, elle a été contactée, mais je crois qu'elle
est venue, puis ensuite elle est
repartie. Donc la clé, c'est aussi les sous, quoi. Parce que parler, c'est bien. Mettre des sous, c'est mieux.
Alors parce que Ada Egerberg, qui est blessée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas participé au match hier, elle n'a pas participé à la fin de saison lyonnaise. C'est dire les ressources de cette équipe. On peut quand même parler de Megan Rapinoe et des États-Unis, parce qu'il regarde aussi. Il a regardé ce qui se passait du côté de nos amis américain Jean-Michel Aulas, et la marque OL, le groupe OL s'est développé en ce qui concerne le sport féminin de ce côté-là de l'Atlantique.
Avec un club qui a été racheté, le FC Rennes qui a été racheté. D'ailleurs, il y a des relations qui se créent encore plus parce que la marque OL, Jean-Michel Aulas veut la développer justement aux États-Unis, et c'est que via le sport féminin et le foot notamment, ça peut se développer facilement. On parlait d'anticipation de la part de Jean-Michel Aulas. Le budget de l'OL, faut-il le rappeler, c'est 7 millions d'euros. Au final, c'est pas une somme énorme comparée aux hommes. Alors c'est évidemment une somme énorme dans le foot féminin. C'est d'ailleurs pour ça que ça va être intéressant avec les clubs anglais, notamment pour eux, mettre un budget de 6-7 millions d'euros pour City, pour Chelsea, pour Arsenal, c'est risible évidemment au final. Et il faudra voir dans les années à venir si Lyon réussit toujours avec le même budget à garder ce gap avec les autres clubs anglais notamment. Juste dernière chose par rapport à Lyon, c'est le développement de Lyon sur ces dernières années. Lyon, c'est un peu le Bayern des hommes, parce que Lyon réussit à garder certaines de ses stars, en tout cas certaines de ses cadres. Wendy Renard en fait évidemment partie, Eugénie Le Sommer également, attire les Françaises qui sont les meilleures des autres clubs. Sakina Kachaoui, pour moi, c'est le meilleur exemple. Elle a signé qu'un an de contrat simplement. Alors elle est libre donc à la fin de la saison, mais elle a signé un an en provenance de Montpellier en se disant je vais pouvoir jouer avec Lyon. Donc elle est là également. Ça arrive à attirer des grandes joueuses étrangères, Jennifer Maroussan l'allemande et d'autres. Donc
Alex
Lyon,
Morgan,
Alex Morgan sur une séquence également. Bref, Lyon réussit à être le Bayern des hommes et à gagner au final, à être plus compétitif encore que le Bayern.
Après la clé, c'est quand même le niveau des championnats quand même locaux, parce que là on parle.
Ce que j'allais dire, est-ce que Lyon est une locomotive ou bien
Bibi disait que
un dominateur trop écrasant.
On a trois équipes pour l'AD1. On a Lyon, Paris et Bordeaux.
Ouais.
Chez les filles.
Il y a. Ouais, et encore Bordeaux.
Non, mais Bordeaux qui est la dernière. Mais l'année dernière, Bordeaux a quand même montré le bout de son nez. Alors, on peut considérer qu'il y a Lyon et le Paris Saint-Germain. Mais bon, Chez les garçons, on a pu considérer un temps que c'était comme ça. Dans certains championnats, si on regarde aujourd'hui, en Allemagne, ça, il peut y avoir Bayern et Dortmund. On peut considérer en Espagne qu'il y a eu aussi à un moment donné le Real, le Barça, même si l'Atlético a pu, mais on voit qu'il y a aussi des écarts qui se créent. Donc c'est un petit peu le cas dans tous les championnats. Il faut espérer que d'autres clubs féminins arrivent à essayer de rester greffés à ces équipes-là plus longtemps, parce qu'il y a encore des écarts importants. Quand Lyon joue, par exemple, une équipe comme Juvisy, ça finit à 7 ou 8-0. Donc,
si c'est pas plus.
Donc, ça, c'est la problématique aujourd'hui. Mais je pense que le football féminin évolue dans ce sens-là. La Coupe du Monde a été un boost très important. Et pour revenir à Jean-Michel Aulas, c'est un précurseur, pas qu'avec les femmes. Avec les hommes, il est le seul aujourd'hui à avoir construit son stade, à être propriétaire de son stade. Il est en train de créer un modèle économique qui, dans 10 ans, rapportera à Lyon, et même s'il n'est plus là ou si un jour il change, il a vendu une partie du capital à des Chinois, il s'exporte aux États-Unis, il a compris que le modèle économique était aussi à l'étranger, donc il essaye de conquérir d'autres marchés, d'autres pays, et on verra si ça fonctionne. Jusqu'à maintenant, ça a été quand même assez malin de sa part,
assez probant,
et je crois que voilà, il a fait tout pour que les femmes triomphe.
Petit hommage à l'ancien président de Montpellier également, Louis Nicolin, qui avait créé
et qui a gagné le championnat
professionnel féminin, la première en France.
Tout à fait. Alors la première entre guillemets dans le nouveau championnat, puisqu'il y avait d'autres équipes.
D'accord.
Avant,
en tout cas,
Juvisy,
également un pionnier, le regretté Louis Nicolin. Parlons du traitement médiatique de cette finale, des audiences record en France à la télévision. Plus +1,7 million de personnes ont suivi ce match, cette finale de Ligue des Champions sur W9 et Canal+. Ça doit vous faire plaisir, ça. Mon cher Habib Bey, l'équipe, en revanche, le grand quotidien sportif, a fait parler, a même généré de petites polémiques, puisque sa une du jour, elle fait davantage place au Tour de France qu'à la victoire des Lyonnaises. Alors, vous voyez ça comment? Vous analysez quoi? Les audiences télé qui montrent que l'intérêt grandit, ou bien la une de l'équipe qui montre que quand même, il y a des barrières à franchir?
Moi, j'entends le message. Mais je comprends aussi l'équipe pour une raison, c'est que le Tour de France, c'est régional. C'est-à-dire on touche tous les départements, et c'est un petit peu le côté franchouillard, sans être
c'est historique,
péjoratif.
C'est
un événement qui est culturel et qui est français, dans son intégralité. Aujourd'hui, quand vous touchez le match Lyon-Wolfsburg, vous allez toucher des gens qui sont fans du football, des gens qui sont fans des Lyonnaises, mais vous n'allez pas toucher la France entière. Donc, il a été priorisé, je pense, du côté de l'équipe, de dire on touche la France entière avec Alaphilippe, qui a quand même fait sensation l'année dernière, et on décide de faire la une avec Alaphilippe. Je trouve que sur l'aspect marketing, je comprends l'équipe. Sur l'aspect logique, et oui, on comprend pas pourquoi il y a si peu, en tout cas, c'est si petit sur la une de l'équipe. Mais voilà.
Sans préjuger de rien, ASO organise le Tour de France, détient l'équipe, emploie Nabil Djellit.
J'ai toujours une opinion. Moi, je pense qu'il y a un principe de réalité également. Le Tour de France, c'est le plus grand spectacle à ciel ouvert au monde. C'est 6 ou 7 millions de personnes qui regardent. Il faut pas du tout mettre en concurrence les hommes et les femmes et deux sports l'un face à l'autre. Le traitement de l'équipe, il est équilibré, il est honnête. Quand il y a eu la Coupe du Monde de football, je crois que les filles se sont retrouvées plusieurs fois à la une. Quand les Lyonnaises ont gagné la Ligue des Champions,
auparavant,
elles se sont retrouvées aussi à la une.
Totalement.
Si disons clairement les choses, si c'est pas un Français hier qui gagne, c'est la une, c'est certainement les filles. Après, c'est des choix. C'est des choix éditoriaux.
Oui, il y a une victoire française sur le.
Oui, voilà. Une victoire française, doublée d'un meilleur jeu, ne récupérée par la Philippe.
Faut pas chercher. Des fois, ces genres de polémiques, c'est contre-productif.
Tout à fait.
Alors, le message est passé, néanmoins pour terminer sur le football féminin et son avenir et les espoirs qu'il peut susciter, ou bien les craintes qu'on peut avoir pour son développement. La Coupe du Monde 2019, elle était censée donner un élan en France, elle a été réussie. Derrière, il y a eu une crise sanitaire, et là forcément, le foot féminin était un peu relégué au second plan lorsqu'il y a eu des discussions sur les reprises ou les arrêts des compétitions. Salim Bangali, est-ce que le fait qu'il y ait eu un dénouement de la Ligue des Champions comparable à celui de la Ligue des Champions chez les hommes, est-ce que c'est une lueur d'espoir pour le développement du football pratiqué par les femmes?
Non, parce que en France, alors je me focalise un instant sur la France, ça ne passera pas par une victoire de Lyon, parce que ces dernières années, c'est pas Lyon qui a poussé à une pratique amplifiée chez les femmes, c'est l'équipe de France. Il faut que l'équipe de France réussisse à gagner.
Oui.
Alors on l'a dit, l'équipe de France a fait un quart de finale de Coupe du Monde, ce qui, alors Noël Le Graët ne l'a pas suffisamment appuyé dessus, mais c'est un échec de n'avoir fait que quart de finale. Je rappelle que lors des prochains Jeux Olympiques, l'équipe de France ne sera pas au JO, ce qui est une rareté pour le coup pour l'équipe de France. Donc là encore, il y a une année loupée. Il faudra attendre l'Euro 2022 pour simplement voir l'équipe de France potentiellement gagner.
Mais au moins au niveau européen, il y a eu une Ligue des Champions qui est allé à son terme comme
oui,
avec
mais,
des champions
mais ça,
chez
changera,
les hommes.
Ça changera rien.
Non, pour le symbole, ça vous inspire.
Oui, enfin, ils étaient obligés de toute façon de réaliser ce Final Eight. Et pour la pratique, encore une fois, en France, ça ne changera strictement rien. Pour qu'il y ait une pratique amplifiée, d'ailleurs, en Allemagne, ça avait été le cas. À l'époque, c'est pas parce que Francfort avait gagné la Ligue des Champions que l'Allemagne avait réussi à booster son quota de filles jouant au foot. C'est parce que l'Allemagne gagnait des compétitions aux États-Unis. C'est pas à cause du championnat, c'est grâce aux exploits de l'équipe des États-Unis à l'époque.
C'est un peu plus institutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème en France pour avoir fait le DES, la formation du deuxième diplôme
pour devenir entraîneur.
Il y a un module sur le football féminin. Il y a un vrai problème d'éducateurs et d'éducatrices pour la capacité d'accueil. C'est-à-dire que même si demain, vous aviez 20 jeunes filles qui se présentaient dans un club pour venir y pratiquer le football, la problématique qu'ont les clubs, et en tout cas les clubs amateurs dans lesquels j'ai été sur les deux dernières années, c'est qu'ils n'ont pas la capacité d'accueil, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les éducateurs et les éducatrices formés, en tout cas assez d'éducateurs et assez d'éducatrices formées, pour prendre ces jeunes filles en charge, pour les amener à pratiquer le football. C'est un réel problème. Quant à la Coupe du Monde, la problématique, elle était que on aurait dû éventuellement au sein de cette Coupe du Monde faire comme ça s'est passé en 98, essayer d'alléger le tableau pour que les filles puissent aller en finale. Lorsque vous mettez les États-Unis
en finale,
excusez-moi, mais on faut pas être bête, ça a été comme dans toutes les Coupes du Monde aujourd'hui.
Le cercle vertueux en tout cas, il est comment ? C'est à mon sens, l'équipe de France doit réaliser de très grands parcours et donc gagner pour que la Fédé se rende compte que mais il y a des filles qui vont venir, qui vont vouloir s'inscrire, à nous de développer et de renforcer en tout cas les capacités d'accueil, notamment des clubs de foot.
Allez, en attendant de dire peut-être un jour bravo aux Bleus, bravo aux Lyonnaises, 7e Ligue des Champions, c'est un record dans la compétition. Francfort est deuxième au palmarès avec 4 victoires, c'est dire la marge des joueuses, des protégées de Jean-Michel Aulas. L'avenir du football pratiqué par les femmes, si ça vous intéresse, c'est aussi un thème abordé dans Match Retour, c'est une série d'été consacrée au futur du ballon rond. Après la crise sanitaire, 5 épisodes créés par RFI, 5 podcasts à retrouver en ligne sur les plateformes dédiées, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.rfi.fr.
Cornet pour Memphis, Hassan Bouyamsa. Oh là là, superbe. Memphis très fort et ça marque. Et le doublé pour Depay.
Et le triplé pour Memphis Depay. Il y a une victoire de Lyon, 4-1 contre Dijon.
Florentin sur le côté droit, il les aime bien ces ballons. Florentin, pourquoi pas. Sur le côté gauche, il va essayer d'enrouler. La spéciale de Thauvin. La spéciale de Florentin. Et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Grâce à son génial Florentin.
Premier match et première victoire pour l'Olympique de Marseille sur un score de 3-2 sur le terrain de Brest.
Rentrée réussie en Ligue 1 pour les Olympiques. Lyon et Marseille avaient raté la première journée du championnat de France la semaine dernière pour des raisons différentes. Ce week-end, ils étaient bien là. Succès 4-1 contre Dijon pour Lyon. Victoire 3-2 sur le terrain de Brest pour Marseille. Hier, Dijon pour Lyon, c'était vendredi. Alors, on va d'abord parler de l'OL et d'un revenant qui fait du bien. Il y a Thauvin côté Marseille. Il y a Memphis Depay côté OL. Alors, évidemment, il est revenu déjà depuis pas mal de temps, Memphis Depay blessé au mois de décembre, gravement blessé. Il est revenu pour les échéances de fin de saison, la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain et puis la Ligue des Champions. Mais il a été plutôt discret, hein, malgré un but qui quand même se sera avéré décisif contre la Juventus Turin. Vendredi, il a signé un triplé et en plus, il est à l'origine du 4e but lyonnais. Alors, a-t-on retrouvé le grand Memphis Depay, celui qui peut changer le cours d'un match à lui tout seul à Bilbao?
En fait, je pense qu'on parle juste du talent de ce qu'est Memphis Depay, donc on n'est pas surpris de le voir faire ce type de match, surtout pas contre Dijon. Donc aujourd'hui, tirer des constats de ce match face à Dijon, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Pourquoi ? Parce que Lyon est bien prêt. Ils ont joué une Ligue des Champions.
Ils ont la meilleure préparation possible.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la différence de ce match, c'est l'intensité qu'ont mis les Lyonnais dans les courses et celle de Dijon. Forcément,
Lyon n'est pas en début de saison.
Lyon n'est pas en début de saison. Donc malgré tout, j'ai encore vu certaines failles quand même dans ce système défensif.
À quel niveau, par exemple ?
Au niveau défensif, je pense à Denayer, à Marcelo. Je pense que c'est des joueurs qui seront en difficulté dans ce système-là.
Alors,
offensivement, pour revenir à Memphis Depay.
Oui, alors revenons à Memphis Depay, on parlera du système lyonnais.
Mais c'est un joueur qui, pour moi, est un joueur de grand talent. Aujourd'hui, on se posait la question, est-il capable d'aller au Barça ? Moi, je pense que Memphis Depay a le talent pour être joueur du Barça, le talent intrinsèque.
Vous pensez qu'il ne sera pas à Lyon dans les prochaines semaines ?
Moi, je pense qu'en fait, la vraie problématique, c'est de ce que va offrir le Barça pour Memphis Depay. Tout va dépendre de ça, parce que je pense que Memphis Depay, aujourd'hui, est un joueur qui se considère comme un joueur qui est à Lyon parce que c'est une transition. Si demain le Barça,
bah, il l'a déjà dit, il l'a déjà clairement
il fera
clairement
tout pour s'en aller. Donc ça sera juste question d'offre et de demande de la part de l'Olympique Lyonnais. Par contre, c'est un joueur de grand talent dont il faut pas négliger ce qu'il est capable de faire dans un match de l'Olympique Lyonnais.
On rappelle que son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, Ronald Koeman, est l'actuel coach du Barça. Et c'est peu dire qu'il a brillé avec le maillot orange sous les ordres de Ronald Koeman, donc ça pourrait le pousser peut-être à...
Attendons pour le FC Barcelone parce que la situation elle est compliquée. On ne sait pas qui va rester, qui va partir entre Messi, Dembélé, Griezmann, et Suarez et d'autres. Mais aujourd'hui, sur le marché des gros joueurs sur la scène européenne, Memphis Depay, ça s'appelle une opportunité de marché. C'est-à-dire que soit vous le faites cette année, il lui reste un an de contrat et vous faites une bonne affaire. Soit vous attendez qu'il prolonge du côté de Lyon, s'il prolonge, et derrière, ce sera beaucoup plus cher. Soit vous attendez qu'il soit libre et ça sera sa décision personnelle. Ça veut dire que Lyon ne gagnera pas d'argent. Mais maintenant, si vous voulez mon sentiment, il va avoir des offres et s'il peut partir, il partira. Il s'en cache pas. Donc, il a le marché anglais, il a l'Espagne et une équipe comme le Paris Saint-Germain, d'après ce que j'ai entendu, il réfléchit.
En tout cas, ce serait un sacré coup dur pour l'OL. Parce que quand on voit ce qu'il est capable de faire après être revenu de blessure, on rappelle 15 buts en 22 matchs la saison passée. C'était monsieur un but par match en Ligue des Champions. Memphis Depay, c'est du très très haut niveau.
Bien sûr, mais Habib l'a dit, enfin, intrinsèquement, quand il est en pleine forme, Memphis Depay, c'est dans le top 15 mondial, quoi. Enfin, il est colossal.
C'est un gros joueur, quoi.
C'est un joueur vraiment énorme. Et effectivement, il lui reste un an de contrat. Des grands joueurs à qui il reste un an de contrat, en Europe en ce moment, il n'y en a pas 10 000 au final.
Il y a Thauvin. C'est la transition pour tout à l'heure.
donc au final, c'est vrai que Depay, il est potentiellement attendu. Et puis, on évoquait tout à l'heure Jean-Michel Aulas, qui est très fort dans la gestion de l'équipe féminine. Là, pour le coup, on le rappelle, Lyon ne joue pas de Coupe d'Europe. Et donc, financièrement, ça a un coût. Donc, potentiellement, pouvoir vendre Memphis Depay cet été, ça rapporte. Et au final, j'ai presque envie de dire, ça équilibre les comptes. Parce que malheureusement, ces comptes ne sont pas forcément dans le vert totalement.
En attendant, Lyon conserve, alors on se parle, Memphis Depay. Après une bonne finale de Coupe de la Ligue, perdue au tir au but contre le PSG. Après une incroyable Ligue des Champions, ils ont atteint les demi-finales. Défaite contre le Bayern après avoir éliminé la Juve et Manchester City. Lyon veut oublier la saison dernière, achevée loin des places européennes en championnat. Pour l'instant, l'été, on l'a dit, est presque radieux. Mais l'automne peut vite arriver. Le temps peut rapidement se gâter, prévient l'entraîneur Rudy Garcia.
On a bien fait le travail. Je pense que le score aurait dû être plus large, finalement, pour la suite du championnat. Peut-être que de ne pas avoir à gérer un deuxième match avec un score fleuve sur le premier, c'est pas plus mal. On va rester humble, les pieds sur terre. On va pas s'enflammer parce que c'est que le début du championnat. C'était Dijon chez nous. On devait absolument gagner et on l'a bien fait. J'oublie pas qu'on était mené 1-0 au bout de 10 minutes ou 15 minutes et que donc mener 3-1 à la pause, c'était déjà une belle réponse de la part de mes joueurs.
Rudy Garcia, prudent, il a raison parce que vous entrevoyez des limites pour l'instant dans cette équipe lyonnaise Habib Bey.
Il est prudent parce qu'il voit les mêmes failles que ce qu'on peut voir nous dans les matchs de l'OL. Il sait que l'année dernière, sa problématique n'était pas de pas marquer des buts parce qu'il a beaucoup marqué. Il était la troisième meilleure attaque du championnat de Ligue 1. La problématique pour Lyon, c'était qu'ils en encaissaient beaucoup et que vous pouvez pas marquer 4 buts à chaque match. Donc, il sait qu'il doit régler ce problème.
Et là, il rappelle qu'ils encaissent le premier but du match.
En l'occurrence, la problématique, c'est que vous voyez les trois défenseurs centraux, c'est Denayer, Marcelo, Marçal, c'était déjà là l'année dernière. Donc, vous n'allez pas les transformer en cheval de course à un moment donné. à partir de là, il doit travailler sur ces aspects-là. Il n'a pas changé son système. Je pense qu'en Ligue 1, il va être obligé d'évoluer. En Ligue des Champions, c'était intéressant parce qu'il avait besoin de contre-attaquer. En Ligue 1, il va devoir être le maître du jeu parfois. Et je trouve qu'il aurait tout intérêt à aussi essayer de jouer à 4 derrière. Maintenant, si ça fonctionne comme ça en Ligue 1, tant mieux pour lui. Moi, j'ai mis des réserves encore une fois sur cet Olympique Lyonnais pour plein de raisons. Parce que Aouar va sûrement partir, parce que le cas Memphis Depay n'est pas réglé, parce que Moussa Dembélé sur le banc ne va pas accepter d'être sur le banc pendant une saison à Lyon. Donc, il va peut-être se dire, si j'ai l'opportunité, je m'en vais. Et que ça, comme l'a dit Nabil, ça perturbe un club dans sa préparation, dans le fait de progresser. Parce que ces joueurs-là ont d'autres ambitions.
Parce que quand on évoque les noms Depay, Aouar, imaginez à l'instant que ces deux-là partent, là ça change totalement la configuration.
Vous changez de dimension et pas dans le bon sens du tout.
Vous êtes redimensionné en Ligue 1, mais c'est ce que vous jouez cette saison. Vous n'êtes pas sur plusieurs tableaux. Ensuite, il y a quand même de la réserve. Il y a un banc. Il y a Toko Ekambi. Il y a le jeune Cherki qu'il faut voir qui est en développement.
Il y a un centre de formation et Cacré qui prend également.
On a le jeune Bard à gauche qui est extrêmement intéressant s'ils arrivent à le conserver. Puis il y a un autre joueur dont on n'a pas énormément parlé. Alors je sais qu'il l'utilise pas tout le temps, mais je pense c'est aussi un des gros talents de cette Ligue 1 et qui peut être un titulaire sans problème à Lyon, bah c'est Jeffrey Nadelaïde quand même,
qui est un joueur qui a été blessé, qui est quand même un joueur
extrêmement talentueux, donc il reste quand même outillé à l'échelle de la Ligue 1, c'est sûr. Mais moi je suis d'accord avec Guy, la question c'est en Ligue des Champions, ils ont trouvé la bonne formule, ils ont été pragmatiques. En Ligue 1, bah vous allez jouer contre des équipes qui sont bloc bas, bah il y aura peut-être d'autres problématiques à résoudre.
Allez, après l'OL, l'OM, Habib, ça va vous faire plaisir, ça. Ah. Vous auriez bien aimé l'avoir devant vous, je suis sûr, sur le côté droit à votre époque. Florian Thauvin, il est de retour. Pour être honnête, il avait joué 10 minutes contre Amiens début mars. Donc, c'est pas exactement son retour le week-end dernier. Il avait joué avant la crise sanitaire, le confinement et l'arrêt de la saison. Donc, autant dire que la saison écoulée avait été une saison blanche pour celui qui a également été gravement blessé. Le champion du monde français, grand artisan du succès de Marseille hier à Brest. 3-2, un but pour ouvrir le score sur une spéciale, la frappe enroulée en pleine lucarne et deux passes décisives pour Tchaleta Tsar. On écoute Florent Thauvin.
Je ne vais pas vous mentir, c'est une victoire pour moi. J'ai un geste pour le coach parce qu'il a toujours été présent pour moi. J'ai une relation particulière avec lui et je ferai toujours mon maximum pour lui. Après une longue période d'absence, c'est toujours très compliqué. On se pose toujours beaucoup de questions. On ne sait jamais comment on va revenir. J'ai beaucoup travaillé. Ce soir, je me suis très bien senti. Donc, c'est une vraie satisfaction et je suis vraiment très heureux.
Florian Thauvin, qui en plus a un mot pour son coach, pour son pote Steve Mandanda, Habib Bey, super mentalité, super retour pour un super joueur.
Oui, bah déjà très bon joueur. Je dirais pas super joueur, mais je dirais très bon joueur et très bon joueur essentiel.
De Marseille.
Oui, bah très voilà. Bon joueur.
Voilà, c'est exactement. Le meilleur joueur de Marseille quasiment.
C'est-à-dire forcément, c'est un joueur qui vous fait passer un cap. Qui vous fait passer un cap dans la qualité que l'OM a à sa disposition. Déjà pour deux raisons. C'est qu'on l'a vu, il a fait sa spéciale Thauvin. Il est capable d'en marquer une dizaine comme ça Totalement. Par saison. Et surtout, il a un pied. Et un pied aujourd'hui en football, vous regardez toutes les équipes qui ont un pied. Quand je parle d'un pied, c'est les coups de pied arrêtés. Et hier,
il n'y a rien sur coup franc.
Bah, et en plus
d'autres coups de pied arrêtés, ont été bons aussi.
Et comment il s'appelle? J'ai plus son nom.
Balerdi. Qui a été un peu en difficulté quand même.
Balerdi, il lui fait une offrande et il doit marquer. Balerdi sur la passe de Thauvin. Donc, je pense que c'est une grande qualité d'avoir un pied gauche comme celui-ci, un pied droit de l'autre côté lorsque Payet va revenir. Mais c'est vrai que Florian Thauvin est un joueur très intéressant dans ce que l'OM veut mettre en place. Il est essentiel pour que l'OM soit en haut du classement. Il a pas d'envie de partir parce qu'il a fait une saison blanche, donc je pense qu'il y a pas beaucoup, il y a pas d'offres, très peu d'offres. Et c'est pas un joueur qui peut prétendre aujourd'hui à toucher les très grands clubs. Donc c'est très bien pour l'Olympique de Marseille. S'il est en forme comme ça, petit bémol, il va falloir qu'il défende un peu plus.
Bon, bah j'espère que le message est
passé.
Non,
mais il va falloir qu'il défende un peu plus dans
des
matchs.
Dans des matchs
un peu plus difficiles, dans celui-ci, il faut remettre en question. Mais hier, ils ont été ballottés. C'est, je vais pas dire, c'est pas un miracle,
hein, période, parce que,
mais ils s'en sortent très très bien.
Marseille menait 2-0, Brest est revenu à 2-1, puis 3-1, et puis,
ils s'en sortent très bien. Même en première période, merci à Gaëtan Charbonnier d'avoir loupé des trucs,
l'attaquant de Brest.
Non loupables, hein, normalement.
Alors, juste, rappeler, quand même, que Marseille, alors certes, la saison n'est pas réellement allée à son terme, on n'a pas joué l'intégralité du championnat, Marseille a terminé deuxième l'an passé, sans forcément convaincre. Hier, il gagne sans convaincre, avec en plus un facteur X, en plus, Florian Thauvin. Est-ce que ça veut dire que, grâce à Florian Thauvin, l'OM de l'année dernière, déjà performant, peut nourrir de grosses ambitions pour cette saison. Vous n'êtes pas d'accord,
David? Ça ne suffira pas parce que l'adversité, elle s'organise quand même. Il y a des effectifs de grosse qualité qui sont dans la même cour que l'OM. Lyon va revenir, Monaco va revenir, Nice faudra surveiller, Bordeaux. Lille sera là, Rennes sera là, Bordeaux, j'y crois pas trop. Ouais. Je pense qu'ils feront une saison au maximum entre 5 et 10. Mais c'est quand même assez minimaliste parfois dans le jeu, l'Olympique de Marseille. C'est une équipe qui est pragmatique. Quelle est la différence entre l'Olympique de Marseille de Villas-Boas et l'Olympique de Marseille d'Eli Boop qui gagnait 1-0 il y a quelques saisons? J'en vois pas beaucoup.
Oui, mais par contre, par rapport aux autres, si tu regardes bien, même s'il n'y a pas un plan de jeu exceptionnel, même s'il n'y a pas une identité de jeu bien définie, c'est quand même un entraîneur qui a bien optimisé son groupe. Il en a une grande connaissance. Aujourd'hui, il reste. Je trouve que, encore une fois, il optimise son effectif et il travaille avec les forces de son effectif. C'est vrai que quand on regarde l'OM, il n'y a rien de...
Oui, admettons, Benedetto, il se blesse. Oui, il est pas là. Tu mets qui en face?
Il mettra
pas. C'est pour ça qu'il veut un
attaquant. Le recrutement d'un autre attaquant.
C'est pour ça qu'il veut un attaquant. Mais malgré tout, il a des certitudes sur lesquelles il peut s'appuyer. Il a malgré tout Alvaro qui a été très performant l'année dernière. Même si là, il n'était pas là, il pourra s'appuyer sur lui. Il a pas n'importe quel gardien. Même si hier, il a eu quelques moments de flottement, Mandanda. Il a gardé un milieu de terrain. Si Morgan Sanson reste, il aura Valentin Rongier. On l'a vu hier avec Strootman, ça sera insuffisant. Mais il a quand même Strootman. Et puis devant, il a des certitudes avec Thauvin, Benedetto, Payet. C'est quand même, il a quand même de l'outil. Donc à partir de là, je pense que la connaissance de son groupe, la confiance qu'ont ces joueurs en cet entraîneur. Et ça, c'est important, on le dit pas assez, mais tous les joueurs sont conquis par Villas-Boas.
Y compris un Thauvin qui n'a pratiquement jamais joué sous ses ordres.
Mais je peux vous garantir, pour avoir des échos de l'intérieur du groupe, ils sont tous convaincus par la qualité de Villas-Boas et de ce que fait Villas-Boas, parce qu'il arrive à concerner tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Maxime Lopez, qui ne joue pas dans ce club, adore Villas-Boas. Donc ça montre aussi peut-être l'opportunité qu'ils auront de figurer en haut du classement. Ils seront très très loin du titre, très 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 loin du titre, mais par contre, je ne vois pas d'autres équipes qui sont capables. Aujourd'hui, peut-être Rennes, mais Rennes va avoir la Ligue des Champions. Lille, on en parle, c'est un nouveau projet, c'est différent. Donc non, je pense que l'OM peut vraiment finir sur le podium.
Juste après, Habib le dit, donc bonne relation entre le joueur et l'entraîneur dans les deux sens, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, cette année, il y a aussi la Ligue des Champions. Donc répéter les mêmes efforts ou répéter des efforts tous les trois jours, puisque ce sera le cas. Notamment, je vous rappelle, la Ligue des Champions cette année, c'est à partir du mois d'octobre. Pas septembre, mois d'octobre, avec des calendriers très resserrés entre octobre et décembre. Est-ce que là, Marseille pourra répéter ses efforts tous les trois jours avec le même effectif, où il y a quasiment le même 11? Là, ça va être autre chose.
Vous rappeliez l'OM d'Elibop qui finit deuxième, ouais. L'OM d'Elibop en Ligue des Champions, il perd ses 6 matchs.
Je le souhaite pas. Non, mais sincèrement, j'y crois pas.
Éviter cette déroute là.
Non, mais j'y crois pas à 0 points. Je veux dire, là, ça a été catastrophique. Ils étaient dans une poule difficile.
Oui, j'ai des douanes de rien. Pour rappel, Marseille a des chances d'être dans le chapeau 4 cette année encore, donc avec un tirage potentiellement très difficile aussi.
Non, tant mais qualitativement,
on retrouve la Ligue des Champions après tant d'années. Je vous dis la vérité, prenez-vous les meilleurs. Moi, je
voilà, mais Habib, vous auriez accepté Marseille de prendre 0 points?
Non, non, pas du tout. Mais comme le dit Nabil, mais peu importe, vous pouvez avoir le Bayern Munich, les meilleures équipes, à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller. On a été en finale de Ligue des Champions, en finale de Coupe de l'UEFA, on a pris Liverpool, on a pris l'Inter Milan, et pourtant l'Inter Milan avait une équipe exceptionnelle. Donc vous ne devez pas vous poser cette question. Ce que je veux dire, c'est que il vaut mieux revenir en Ligue des Champions et prendre ce qui se fait de mieux, parce que vous avez créé une émulation auprès du public, les gens vont venir au stade, vous allez créer un truc exceptionnel.
Et ça peut encore renforcer ce groupe que vous décrivez comme étant
si solide. Bah oui, parce que si vous prenez des seconds couteaux de Ligue des Champions et que vous finissez quatrième, les gens vont dire, ah vraiment, cette équipe, elle est pas au niveau. Donc je trouve que c'est toujours mieux de prendre du top du top, et puis au moins tout le monde est motivé, ça crée un petit peu d'émulation au sein de la ville et au sein du club, et même si j'espère qu'à ce moment-là, les supporters pourront revenir dans les stades,
parce que l'émulation...
S'il y a personne qui vient, c'est différent, mais voilà.
D'ailleurs, vous parlez de l'Inter Milan, juste une parenthèse, un ancien de l'Inter sur le point de rejoindre
Nagatomo.
Ça
a été officialisé,
international japonais. Ouais. C'est officiel. Ouais. Vous nous dites Selim Bongali.
Oui,
bon, au moins, il rejoindra Hiroki Sakai, son compatriote.
C'est une doublure, il arrive comme doublure de Jordan Amavi.
Il a l'expérience, plus de 30 ans.
Ouais. Alors après, je sais pas ce que ça donnera, mais du côté de Galatasaray, en tout cas, ils en voulaient plus depuis un bon moment.
C'est pas bon signe.
Il a fait des bonnes années du côté de l'Inter, des bonnes premières années du côté de Galatasaray. C'était un petit peu compliqué ces derniers temps. Après, c'est aussi peut-être un garçon qui a un excellent état d'esprit. C'est 122 sélections avec le Japon.
Des Coupes du Monde.
Donc voilà, par contre, je suis désolé, c'est pas un projet d'avenir pour l'Olympique de Marseille.
Non, mais est-ce que c'est la solution là pour les semaines qui viennent
de
recruter Malin et
un joueur qui a connu la Ligue des Champions, qui a connu le très haut niveau, de façon à amener cette expérience au sein de son vestiaire. Il en fait la doublure d'Amavi. Bon, je trouve qu'Amavi a fait une bonne saison l'année dernière. Ça a été mieux, bien relancé par Villas-Boas.
Mais il le prend pour se rassurer, ça veut dire qu'il va pas rester. Si tu t'inscris dans un cycle, tu prends un jeune que tu mets derrière Amavi et tu le développes sur 2-3 ans.
Mais après l'argent.
Et tu le matches. Non, mais ils sont contraints entre j'ai pas d'oseille et entre Villas-Boas, dont l'avenir est, à mon avis, incertain quand même. Je veux dire, Villas-Boas, c'est qu'il veut faire quand même un minimum bonne figure. Donc, pour faire bonne figure, tu prends des joueurs pour te rassurer.
Il veut vendre tout le monde en Ligue 1, Nabil Djellit. Aujourd'hui, les Lyonnais, les Marseillais.
On va pas être d'accord, il n'y a pas de souci.
Un dernier mot sur l'OM, sur son nouveau défenseur central, Balerdi, argentin.
Moi, j'ai préféré le croate à côté.
De Dortmund. Alors, Çalhanoğlu, forcément, il marque un doublé et il est très bon depuis pas mal de temps. Le croate, Balerdi, des débuts
faut
plus
qu'il fasse
compliqués.
De la muscu,
il y a un tout petit peu impliqué, même beaucoup dans les deux buts.
Ah oui, oui, pour le coup, on a quelques doutes. Alors, encore une fois, on va pas se focaliser que sur ce premier match et dire dès l'issue du premier match, Balerdi est nul. Non, il n'a pas été bon, c'est un fait, on est tous d'accord là-dessus. Après, c'est un match de reprise au final, un match officiel de reprise, simplement.
C'est une doublure.
On demande d'attendre, et effectivement, c'est Alvaro qui est numéro 1.
C'est Alvaro et Çalhanoğlu qui vont jouer, et Balerdi, aujourd'hui, il n'a pas joué l'année dernière à Dortmund. Donc à partir de là, vous récupérez un joueur qui a pas joué pendant un an. Et il s'est entraîné,
Bien sûr.
Il a pas joué pendant un an.
Il a pas le rythme.
Il a pas de rythme, donc vous pouvez considérer que c'est presque un joueur que vous avez récupéré et qui sortait d'une blessure importante, même s'il s'est entraîné. Mais l'intensité, on a tendance à négliger l'intensité de la Ligue 1. Pour tous ces joueurs qui arrivent de l'étranger, et Alvaro l'a dit, plein de joueurs qui sont arrivés de l'étranger, on dit on a été surpris malgré tout par l'intensité de la Ligue 1. Donc il faut lui laisser le temps. Mais c'est sûr qu'il a pas été à son avantage.
Le problème c'est que le temps on va pas lui laisser puisqu'il est pas titulaire.
Aussi.
Donc c'est ça qui est compliqué.
Oui, mais ils vont jouer beaucoup de matchs, on l'a dit, c'est avec la Ligue des Champions.
En attendant, une petite trêve internationale lui permettra de faire un petit peu de musculation, notre ami Balerdi. Après la trêve, un sacré test, le classique au Parc des Princes face à
PSG. J'espère que ça sera mieux que la saison dernière.
Est-ce que c'est un classique? Ça, ce sera une question qu'on vous posera la prochaine fois.
Il arrive trop tôt, je pense.
À Bibay, il arrive tôt. Juste rappeler qu'on approche les 10 ans de... Enfin, on approche l'anniversaire des 10 ans de la dernière victoire de Marseille contre le Paris Saint-Germain. C'était novembre 2011.
Qui a le presque... Le plus gagné. Déjà plus gagné, mais dernier gagné avec l'Olympique de Marseille.
C'était en novembre 2011, la dernière victoire de Marseille face à Paris. Et le classique, le premier classique de la saison, ce sera le 13 septembre prochain. Ce sera lors de la prochaine journée de Ligue 1. Ce n'est pas normal et vous aurez l'occasion, je suis sûr, de le rappeler lors de vos prochaines apparitions sur le plateau de Radio Foot.
Lovely ball to Aubameyang.
Pierre-Éric Aubameyang, la frappe ! Et la voilà l'ouverture du score dans ce Community Shield 2020. Et c'est signé Pierre-Éric Aubameyang.
Absolutely magnificent.
Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal remportent le Community Shield 2020.
For Arsenal, they lift the Community Shield. The FA Cup winners have beaten the champions, albeit on penalties.
Que les supporters marseillais ne perdent pas d'espoir, même Arsenal peut gagner des matchs, tout arrive. Succès en finale de la Cup début août, succès dans le Community Shield à la fin de ce même mois, c'était samedi. Les Gunners ont pris le meilleur sur Liverpool, s'il vous plaît. Un partout, score final, 5 tirs au but à 4. Buteur et dernier tireur londonien, un certain Pierre-Emerick Aubameyang, de nouveau décisif. C'est déjà lui qui avait offert la coupe à Arsenal grâce à un doublé et il a de nouveau régalé ce week-end. On l'écoute.
Aujourd'hui, on méritait vraiment de gagner. Je vais prendre ce trophée et j'espère que cette fois, je ne le ferai pas tomber. On a bien joué, comme sur le but où on a développé une action fantastique en repartant de notre défense. On va prendre ce trophée et on va savourer. On s'améliore de semaine en semaine. Il y a encore du travail, mais c'est une période très stimulante pour être un joueur d'Arsenal.
Il est en forme, son but à la 20e minute est superbe. Salim Bongali, Pierre-Emerick Aubameyang, il fixe côté gauche, il enroule, il est peut-être au top en termes de niveau personnel dans sa carrière et ça augure peut-être quelque chose de pas mal pour Arsenal.
On en a parlé il y a quelques semaines déjà, Nabil, on était ensemble sur ce plateau à l'issue notamment de la finale de la Coupe d'Angleterre remportée. Il y a une chose qu'on a n'avait pas dit à ce moment-là, qu'on pourrait presque dire, c'est qu'en 2020, au final, c'est vrai qu'on a des joueurs africains d'immenses talents, Sadio Mané, Mohamed Salah et tant d'autres, mais Pierre-Emerick Aubameyang, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est le meilleur africain en 2020. Enfin, Aubameyang est à un niveau invraisemblable. Avec Arsenal, c'est lui qui a porté Arsenal, notamment en Coupe d'Europe. Alors, en Coupe d'Europe, non, puisqu'il y a eu cet échec face à l'Olympiakos, mais en tout cas en Coupe d'Angleterre, là encore en Community Shield, c'est lui qui a eu le brassard, je rappelle, c'est une symbolique qui est loin d'être symbolique d'ailleurs. Aubameyang est dans une forme incroyable. Il n'a pas officiellement prolongé encore, mais il devrait prolonger avec Arsenal pour un salaire mirobolant là encore. Mais Aubameyang, il est dans la forme de sa vie et Arsenal et Arteta surtout peut reposer son projet sur le Gabonais aujourd'hui.
29 buts en 44 rencontres la saison passée, co-meilleur buteur de Première Ligue avec Mané,
il y a deux saisons.
En 2019, exactement, il y a deux saisons. Pierre-Emerick Aubameyang, Abbey Bay, c'est intouchable.
Bon, c'est intouchable à Arsenal. En plus, il le fait en jouant à gauche, faut pas oublier, puisque c'est pas lui qui joue avant-centre, même s'il a très tendance à se réaxer lors des matchs. Moi, j'ai une lecture différente de ce match parce que je connais la préparation de Liverpool. Je suis au courant de la préparation de Liverpool et ce que leur a fait Jürgen Klopp pendant ces 30...
Très intensif.
Ils ont énormément travaillé en force et Jürgen Klopp a même dit avant le match, pour avoir des sources à l'intérieur du club,
décidément.
Tout le monde connaît ici. Non mais voilà, leur a dit forcément vous allez vous sentir un petit peu lourd. De toute façon, on n'est pas là pour préparer et être prêt sur ce match-là. Si on gagne le Community Shield, tant mieux, c'est un titre. Mais on a senti Liverpool un petit peu en dedans. C'est très bien pour Arsenal. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à oublier. Je pense que Salim va le confirmer, c'est que avec Arteta. Depuis qu'il a repris Arsenal, c'est une équipe qui était troisième de Première Ligue, si je me trompe pas, dans ses résultats. Donc, il a repris cette équipe en grande difficulté. Il a apporté sa philosophie petit à petit. Il a fait des choix aussi avec des joueurs qu'il a écartés. Je pense à Matteo Guendouzi, malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Arteta est en train de faire du bon travail et il le fait lentement mais sûrement, et il a aussi des atouts à faire valoir, parce que quand vous voyez cette équipe, Nketiah et Bukayo Saka sont des très jeunes joueurs qui viennent du centre de formation en tout cas d'Arsenal, et je trouve que c'est une bonne chose de voir ces jeunes joueurs s'intégrer parfaitement aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est lui très très performant maintenant depuis des années.
On rappelle juste Salim que le précédent championnat s'est arrêté le 26 juillet, donc le calendrier est forcément particulier en raison de la crise sanitaire, là on reprend assez vite, donc c'est aussi pour comprendre un petit peu où on en est dans les préparations. Ce Community Shield, il arrive très vite, et la reprise du championnat, c'est
le 12 septembre.
12 septembre après la trêve internationale.
C'est ça. Et juste, Arteta, quand même, depuis qu'il est arrivé, ça reste 2 trophées. Déjà 2 trophées. Donc, ça valide, en quelque sorte, sa manière et ses choix aussi. On a évoqué le cas Matteo Guendouzi. On a évoqué le cas aussi, d'ailleurs, ou pas, le cas Lacazette. Parce que Lacazette, ça devient intéressant aussi. On parlait de certains joueurs à forte valeur ajoutée qui sont peut-être sur le marché. Alexandre Lacazette, aujourd'hui, il n'est pas forcément dans les plans absolus de Mikel Arteta.
Il n'est pas dans le projet de jeu d'Arteta.
Ah non, voilà. C'est le problème. Et donc, aujourd'hui, on se dit que Lacazette, c'est un choix d'Arteta d'avoir été mis un peu de côté, entre guillemets. Mais Arteta, il valide ses choix avec 2 trophées remportés.
On a à peine un mois.
C'est
donc
ça.
C'est la dynamique est peut-être très bonne. Un petit mot peut-être sur Liverpool, Nabil Djellit, Salah et Mané, ils étaient titulaires. Mané, il a été impliqué dans pas mal de situations. Salah, il est impliqué sur le but de Liverpool. C'est un bon signe. Vous les avez trouvés comment ce samedi?
Bah, je trouve que depuis le restart, globalement, ils sont un peu en difficulté. Liverpool, on n'a pas retrouvé le Liverpool.
Vous faites le lien avec la fin de saison un petit peu compliquée, ouais, après la validation du titre, ouais, notamment la déroute contre City.
Après, je les ai
vus
en amical face à Salzbourg également. C'était assez assez compliqué, mais si Habib dit que de toute façon ils sont en préparation de fond pour être opérationnels pour le début de la Ligue des Champions et de la Première Ligue, moi j'ai confiance dans le talent de ces garçons. Ce qui m'intéresse, c'est le reste, l'animation, savoir qui va arriver, est-ce que Alcantara va venir ou pas, ça peut changer aussi pas mal de choses, l'avenir aussi d'un autre africain qui peut être en question, Naby Keïta notamment, parce que si Alcantara arrive, je sais pas quand il va jouer.
Il y a une incertitude pour Sadio Mané qui éventuellement pourrait partir du côté de l'Espagne.
C'est vrai que
Ismaïla Sarr qui pourrait arriver aussi du côté de Liverpool. Il y a des...
Vous l'avez trouvé comment, Sadio Mané, samedi?
Je l'ai trouvé un peu en dedans physiquement, moins d'explosivité, mais c'est également le cas pour Salah. Mais je me fais pas de soucis parce que je suis au courant de ce qu'ils leur ont fait faire, et ils ont travaillé énormément en force, et c'est normal qu'aujourd'hui Liverpool soit un petit peu lourd, et de toute façon c'est pas l'objectif pour eux d'être prêts maintenant. Ils ont pas changé leur effectif, comme le dit Nabil, ils vont y incorporer, je pense, de la qualité.
Alcantara, c'est bien, franchement.
Et sincèrement, vous regardez cette équipe. J'ai entendu bizarrement des gens dire oui, c'est une équipe en fin de cycle. Moi, quand je vois Fabinho, c'est jeune. Quand je vois Mané, c'est jeune. Salah, c'est jeune. Firmino, c'est jeune. À part Milner, il y a très peu d'anciens, quoi. Voilà, vous avez Alexander-Arnold Robertson, c'est très jeune.
On cherche un central quand même, c'est intéressant.
En tout cas, si on vous suit, on va peut-être conclure l'émission là-dessus. C'est une bonne galice, ce Community Shield. En pleine crise sanitaire, il n'est pas forcément très très révélateur du réel niveau, oui, et du niveau à venir de ces deux équipes.
Autant on peut nourrir de l'espoir pour Arsenal, mais pas dire qu'ils vont être concurrents en titre, mais se dire que oui, Arteta a peut-être validé son début de projet de jeu, très bien. Pour Liverpool, je rappelle que la saison dernière, Liverpool n'avait pas remporté ce Community Shield, c'était City qui l'avait remporté. On a vu la suite en Première Ligue notamment. Donc c'est
Arsenal est trop faible défensivement aujourd'hui avec ce qu'ils ont présenté pour espérer être champion de Première Ligue. Il faudra vraiment modifier certaines choses défensivement. David Luiz.
On rappelle d'ailleurs que Socratis va partir, a priori, voilà. Il va partir à Naples, Socratis. Donc c'est encore une autre perte pour Arsenal aussi. Et juste pour Liverpool, ils doivent quand même être prêts, ne serait-ce que dans 11 jours, premier match de la saison, Liverpool-Leeds, Klopp face à Bielsa. Là déjà, ce sera un premier test intéressant.
Et on suivra ça très attentivement. Merci messieurs, merci Simon Galli, merci Habib Bey, merci Nabil Djellit, merci David Finzel, merci Laurent Salerno. Radio Foot revient demain avec Annie Gasnier aux manettes. En attendant, excellente soirée à l'écoute de RFI.